Dernier, le pasteur a parlé de la foi et il en a parlé de manière très pratique. Il y a une phrase, la dernière phrase que j'ai notée en tout cas quand il finissait son message, c'est « Dieu avait un plan pour Moïse, mais ce n'était possible que s'il se détournait de l'Égypte. » Et je trouvais que c'était une phrase très très forte. Et moi, j'avais déjà commencé à préparer le partage pour cet après-midi. Et justement, le titre, c'était « Le plan ». C'est « Le plan ». Donc, j'ai trouvé un plan. Voilà. Un plan qui est fait, bien pensé, tout ça. Donc, je le posais là. Ça va être l'illustration pour mon étude. Donc, j'ai choisi ce thème parce que je suis... Je sais pas, ça fait quelques semaines maintenant que c'est un sujet qui je suis juste en admiration devant Dieu dans sa manière de faire les choses. Dieu travaille, des fois on le voit pas, mais il travaille en douceur, mais c'est très stratégique, très précis. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Donc voilà, je voulais juste me pencher un peu plus sur ce thème, le plan de Dieu. Et dans le groupe de jeunes où j'ai grandi, 14, 15, 16, 17 ans, il y avait tout ce groupe de jeunes, et la question qui revenait souvent, c'était quel est le plan de Dieu pour ma vie? Vraiment, quel est, et ça a été, et puis j'ai rencontré d'autres chrétiens plus tard, plus adultes, et c'était toujours cette question derrière la tête. Est-ce que on regarde les autres et puis on se dit, est-ce que Dieu a un plan pour moi? Ou quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et c'est une question qu'on a dans la tête. Mais en grandissant, je veux dire, dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé qu'au fait, Dieu n'a pas un plan. Il dessine pas un plan qui me remet. Et il y a à moi à charge de l'accomplir, de le réaliser. C'est lui qui s'est conçu un projet. Il m'introduit dans le projet. Et je découvre le plan au fur et à mesure. J'ai pas quelque chose en main sur lequel je peux m'appuyer et dire « Tiens, ça c'est le plan de Dieu, ça, voilà, Dieu m'a appelé à faire ça et ça. » Parce que je n'ai, même quand Dieu appelle des personnes de manière spécifique, on le voit avec Paul dans le livre des Actes, c'est toujours de la découverte. Il pense aller dans une direction, il doit dire « Non, on va là. » Donc le plan, on l'a pas, c'est Dieu qui s'est fait un projet. Et il nous a introduit dans son projet. Donc, c'est important d'avoir ça en tête que Dieu s'est conçu un projet. Il s'est fait, il a un but. Il s'est préparé quelque chose de toute éternité que lui-même est en train de dérouler. Nous, on n'en fait que partie. Et je vais lire un verset dans Éphésiens 1, 9 à 12. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. » pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espérée dans le Messie. Et la traduction de la Bible français courant dit « le plan secret décidé par avance ». Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Donc son but, on le voit dans ce passage, et le livre des Éphésiens est super pour ça. Il décrit vraiment ce que Dieu a en tête. Quand on lit les 6 chapitres, vraiment, Paul décrit comment on a été unis à Christ, ce que Dieu a préparé, et puis on voit ça tout le long de ces livres-là. C'est vraiment un livre super à lire. Et donc son but, voilà, son projet, c'est de tout réunir en Jésus-Christ, de nous réunir à Christ, de nous unir à Jésus-Christ. On voit à la fin comment l'histoire finit. C'est vraiment son projet, c'est ça. Un autre verset dans Éphésiens 1, 4 qui nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, à quel moment nous rentrons dans ce projet? À partir du moment où nous naissons de nouveau, c'est-à-dire que nous croyons en Jésus-Christ. Jésus est venu, est mort à la croix, la Bible nous décrit la raison de sa venue et tout ce qui se passe, en tout cas avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a inspiré ce livre. Et ce projet commence pour nous à partir du moment où nous naissons de nouveau. Donc n'importe qui, les petits, les grands, tous, je crois, je place ma confiance en Jésus-Christ, je rentre dans ce grand projet que Dieu a préparé de toute éternité. Donc il est important pour nous de pas, en tant que chrétien, des fois, on peut même être désespéré en pensant au plan de Dieu. Quel est ce plan-là? Ah, j'ai toujours pas découvert ce plan, je sais toujours pas où Dieu m'amène. Non, on est déjà dedans. On est déjà dedans et ça, c'est très encourageant pour nous. Même si on n'en connaît pas les contours et qu'on connaît pas les détails, au fait, on est au bénéfice de ce projet-là. Donc, je me suis attardée un peu sur le mot projet, ce qu'est un projet. Il est aussi décrit par, en tout cas, le mot Larousse le décrit par le mot dessein, un dessein. Un dessein, c'est une intention de réaliser quelque chose en prenant en compte tous les moyens utiles à sa mise en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Il y a d'autres synonymes pour ce mot-là qui sont but, fin, intention, objectif, programme. Et ceux qui sont habitués à gérer des projets, je crois qu'il y en a autour de la table. En tout cas, les meneurs de projets disent qu'il y a 5 phases essentielles à respecter. Qui sont, 1, l'initiation, donc c'est la phase où les bases sont posées, où on définit l'objectif du projet, les ressources dont on a besoin, les protagonistes, c'est-à-dire qui va être impliqué dans ce projet-là. Il y a le chef de projet, il y a des sponsors, il y a les membres d'équipe qui vont y travailler, donc il faut tout un groupe pour que le projet soit construit. Ensuite, une fois que l'objectif est fixé, il y a la planification, il faut un plan d'action. Quelles sont les étapes qu'on va suivre? Un calendrier est établi. Et puis ensuite, on passe à l'exécution qui est basée sur le plan. Pour que le projet aboutisse, on est obligé de s'en tenir au plan. Et ensuite, il y a le suivi et le contrôle. Donc, à chaque étape, on regarde, il y a des outils de gestion qui ont été inventés exprès pour faire un suivi de projet pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et qu'on se perd pas. Et ensuite, il y a la clôture où on est devant le résultat. On est là pour contempler le résultat. Il y a aussi des analyses pour voir si le projet a bien abouti ou pas. Il y a des célébrations. Je sais, à mon travail, il y a toujours, ils ont des projets, une fois que tout le monde a souffert, sué, couru partout, il y a toujours un restaurant ou un petit pot pour dire, oh, on célèbre telle chose, voilà, on est arrivé à bout, on l'a fait. Donc voilà, c'est les 5 étapes du projet et ça s'applique à nos vies aussi. Donc 1, l'initiation, c'est Dieu qui a conçu le projet par l'œuvre de Christ à la croix. Tout revient à Jésus-Christ à la croix, il est au centre. Donc, ce projet est basé, la base de toute chose, il est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Donc, par la rédemption, et nous qui croyons en lui, nous rentrons dans le projet. Colossiens 1, 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ensuite, il y a les ressources. Éphésiens 2, 10, Colossiens 1, 12 à 14. Ensuite, Éphésiens 2, 10. Ensuite, on passe aux ressources. On sait que Dieu a toutes les ressources, ça on n'a aucun doute dessus. On connaît Dieu maintenant et on sait que Dieu peut tout. Il est tout puissant, il peut tout. Ésaïe 46, 11, c'est moi, ça c'est Dieu qui parle, hein. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Job 42, 3. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ensuite, on a un plan à suivre. Il faut ce plan. Il y a le projet, puis ensuite, il y a le plan. Donc, il a préparé un plan à suivre. Il nous a laissé des instructions dans sa parole et le Saint-Esprit pour nous guider. Dans Exode 25, 20, voici ce qu'il dit à Moïse. Alors qu'il avait déjà donné toutes les instructions, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Ça leur a pris 3 mois pour arriver au mont Sinaï. Et ensuite, il les a gardés là pendant presque 1 an, en fait. Je crois que c'est à peu près 9 mois pour donner toutes les instructions. Parce qu'il y avait besoin, il venait d'un autre environnement où Dieu n'était pas connu, où il y avait d'autres pratiques. Et là, il les garde là pour les instruire. Il donne les lois morales à les 10 commandements, les lois morales à Moïse, comment la société allait être organisée, la construction du tabernacle, tous les détails. C'est tellement précis, tous les détails, chaque petit objet, même les cuillères, tout dans le temple. Il donne la mesure exacte, les couleurs, quelle matière, qui va s'en occuper. Il donne toutes les instructions, surtout. Et comment est-ce que le culte allait être célébré? Il établit le clergé, on va dire. Donc, il leur enseigne, il leur donne des instructions bien précises. Et il y a ce verset qui dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, c'est ce que... Le plan à ce que c'est ce que Dieu nous dit. C'est « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et on a la Bible. Donc, on a nos Bibles et il y a les instructions qui sont toutes là. Ça, c'est le plan. Et ensuite, tout le long du chemin, il nous teste pour nous perfectionner. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est une promesse, hein, nous rendre inébranlable. 1 Pierre 1, 7 à 8. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, la Bible nous parle du tribunal de Christ, où il y aura des récompenses. Donc, à la fin se termine comme ça. On aura des récompenses. Pasteur a parlé de la rémunération que Dieu nous promet. Il en a parlé mercredi. Et la Bible, il y a tout type de récompenses qui sont décrites dans la Bible. C'est pour nous. Dieu a préparé des récompenses. Et il y aura les noces de l'agneau. Il y aura une grande célébration. À la fin, on va dire la fin du projet d'ici-bas. Et après, on est entraîné avec Dieu pour l'éternité. Et on voit comment Jésus promet qu'il reviendra nous chercher. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Apocalypse 19, 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Qui est cette épouse? C'est nous, ouais, c'est l'Église. Donc voilà, ça c'est le projet, nous unir à Jésus-Christ. Il est en train de préparer l'épouse. Donc Dieu a son projet. Il a conçu un plan. Il nous a entraînés dans le projet. Le plan, je l'ai pas. Le plan, je l'ai pas. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans le plan. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a envoyé esprit. Il a dit, je vous envoie un consolateur. Il nous a envoyé un guide. Son nom, c'est un guide. C'est un guide. Pour marcher dans le plan, avoir ma part, faire ma part dans ce projet-là, mes yeux doivent être fixés sur le guide. Parce que c'est lui qui me guide. Je ne connais pas le plan. Ce qui est super aussi qu'on voit dans la Bible, c'est que vraiment, il a appelé chacune, chacun, tout le monde, hein, chaque croyant a un appel particulier dans ce projet-là, quelque chose à accomplir dans ce projet. C'est pour ça que j'ai pris cette image, un architecte qui dessine, qui dessine le plan, tout ça, et ensuite il y a un maître d'œuvre qui a le plan qui s'y tient, qui regarde, et chacun fait sa part. On va faire venir les électriciens, les maçons, je ne sais pas à quel moment on fait venir qui, mais chacun à sa part, les porteurs, s'ils ne sont pas là, ça va être difficile. Donc il y a les porteurs, il y a les ferrailleurs, il y a tellement de gens qu'il faut pour qu'un projet aboutisse. Ou en tout cas que l'édifice soit terminé, tellement et chacun fait sa part avec un calendrier. Celui-là doit passer avant celui-ci, il a telle date, il y a tellement de détails, il faut quelqu'un qui regarde et qui agence et qui conduit et tout ça. Donc c'est tout un travail. Mais Dieu, là, lui, a toute l'image déjà, et moi, là où je suis, je n'ai pas l'image, je ne sais pas, et même des fois, peut-être Dieu va faire des choses dans ma vie que je ne vais pas comprendre. Souvent même, il va amener une situation et je serai là, je ne comprends pas. Mais en fait, si j'ai dans ma tête qu'il a un projet et qu'il y a un plan qu'il est en train de suivre, que quelqu'un me conduit, je vais me laisser entraîner facilement, même si c'est pas facile. Parce que je sais qu'il y a un but, il y a un objectif, c'est pas un hasard. Et ça, c'est important pour nous. Une des choses qui est importante aussi, on voit la fin de l'histoire. Pendant la célébration, que nous sommes l'épouse, nous allons être unis à Jésus-Christ. Mais Dieu ne veut pas des citoyens, comment dire ça, de seconde zone. Dieu là travaille à faire de nous des citoyens dignes de ce nom en fait, des citoyens des cieux, dignes de ce nom. Quand on va être là, unis à Jésus-Christ, on sera. La Bible dit que quand on le verra, on sera comme lui au fait. Il y a tout un travail qui aura été fait pour qu'on ressemble au Christ, pour qu'on porte le caractère de Dieu, pas juste quelque chose que j'ai entendu et que j'essaie d'appliquer par moi-même, mais le Saint-Esprit sait comment me conduire, je vais me retrouver dans des situations qui vont me transformer et faire de moi quelqu'un d'autre. J'ai cette image en tête, on voit dans les films, peut-être une jeune femme de basse condition, qui n'a pas toutes les manières et qui va être introduit dans un palace. Il y a tout un travail qui va être fait. Moi, j'adore regarder ce genre de film. Il y a tout un travail qui va être fait. On va commencer déjà à lui changer peut-être les cheveux, les vêtements, la parfumer. On le voit avec la reine Esther dans tous les cas, hein, qui est de basse condition dans la Bible. On voit vraiment ça, qui est de basse condition. Et qui va être est amené au palace et préparé pendant 6 mois avec des parfums, plein de choses pour être magnifique, préparé, prête pour le roi. Et c'est un peu l'histoire ici. C'est vraiment Dieu nous prépare et il fait un travail. Il fait un travail pour qu'on soit prête à être présentée. Donc ça, c'est le plan. Il est en train de former le caractère de Christ en nous. Donc moi, ma part dans le plan, c'est quoi? C'est d'être concentré sur le guide, au fait. C'est d'être concentré sur le guide. Aujourd'hui, bah, il fut un temps, c'était les plans papier que les gens utilisaient pour se déplacer. Hein. Ils sont en voiture. Moi, je me rappelle mon père, en voiture, il ouvrait. Des fois, il se garait. On ouvrait son plan pour être sûr que, voilà, la petite rue, c'est là, on l'a loupé, ou il faut passer par là. Aujourd'hui, c'est les applications. qui veut dire qu'on ne peut pas aller d'un point A à un point B sans un plan. C'est impossible. La toute première fois. Après, on peut y aller les yeux fermés, par exemple, là, pour venir de chez moi, pour venir au local. J'ai pas besoin de plan. Je sais très bien quel métro prendre, comment faire. Mais la toute première fois qu'on a déménagé, je suis sûre que tout le monde regardait son plan. Comment faire pour arriver au 48 rue des Meuniers. Donc, on a besoin d'un plan. Et donc, dans la culture, en tout cas au Togo, on n'utilise pas forcément des plans ou pas forcément des applications, mais il y a toujours quelqu'un pour te dire oralement le plan. Passe par telle rue, tu vas jusque là, il y a une cathédrale, après il y a un poteau, il y a une peinture rouge dessus, et tu tournes dans le coin. Donc, et ça marche parfaitement. Je sais pas comment, c'est un miracle pour moi que ça marche, ce plan oral comme ça, mais ça marche. J'ai déjà testé. Je suis allée dans un petit village, donc j'avais peur de me perdre. On m'a dit, OK, non, tu prends telle voiture, tel taxi. Il va te descendre là. Il y a une grande maison à étage, voilà, décrit. Et tu tournes, il y a une autre voiture que tu vas prendre de là-bas qui va t'emmener. Et ça s'est bien passé. Donc, on a besoin de plans pour avancer. Et encore plus quand on voyage à l'étranger, peut-être en voyage de groupe ou on s'inscrit avec un groupe où il y a un guide. Franchement, quand il y a un guide, tout le monde a les yeux fixés sur le guide parce que quand tu connais pas, tu t'amuses pas à aller devant un magasin, regarder. Non, tu regardes si le guide où elle est, peu importe ceux qui sont autour, si les autres veulent aller se perdre. Mais nous, on est concentrés. On s'amuse pas à les suivre. On est concentrés sur le guide parce que si mes yeux quittent le guide pour X raisons et que je les perds, je suis perdu. Et ça arrive aussi dans notre vie chrétienne, plus d'une fois, je crois, où on suit le guide et puis d'un seul coup, on est distrait par quelque chose. Et d'un seul coup, on se perd. Bon, parfois, ça peut durer un jour, deux jours, d'un seul coup. Et après, on réalise, on revient, on dit, OK, on prie, on revient au Seigneur, on reprend là où on l'a laissé. Dieu est là, le Saint-Esprit est toujours là. Heureusement, il ne nous abandonne pas. Il veille à ce qu'on ne se perde pas. Il veille. Mais parfois, ça peut être plus grave. Il y en a qui se détournent de Dieu, enlèvent leurs yeux, se détournent de Dieu et ils pensent qu'ils ont trouvé un plan magnifique. Il y a un autre plan, quelque chose à faire et ils se retrouvent des fois dans un fossé. C'est possible ça aussi. Et il y a des histoires des fois qu'on entend qui sont pas, ils sont pas, et les gens eux-mêmes reconnaissent après que non, c'est parce qu'ils se sont détournés de Dieu, qu'ils se sont retrouvés dans une situation aussi inextricable. Et on veut pas arriver dans ce genre de situation. Donc, nous, notre part, vraiment, c'est de faire confiance en Dieu, en premier, faire confiance au Consolateur, au guide qui nous a donné, le Saint-Esprit, qui est toujours avec nous pour nous guider, et faire confiance au plan, ce que Dieu a préparé pour nous. Pour moi, personnellement, moi, je suis émerveillée quand je vois des gens qui sont doués dans leur domaine, et que je me dis, comment fait-il si je pourrais jamais. Ah, je sais pas, même quand je vois quelqu'un qui est entré, ouais, tac, 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 va le faire. Je dis, ouais, comment elle a fait? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je passais devant une poissonnerie, là, dans la rue. Et je voyais la dame avec son tablier, là, dans ma tête. Je disais, voilà, c'est ça. Si on me met dans une poissonnerie, je serais perdue, mais je suis perdue. Mais elle est douée dans son, elle va te dire, ouais, va tel poisson, tel poisson, tel poisson. Et puis elle va te décrire une chose que tu peux faire avec et tout ça. Et dans l'église, c'est pareil. Il y en a une qui va chanter. Moi, comment fait-elle? J'aimerais tellement pouvoir chanter comme elle. Mais au fait, Dieu ne m'appelle pas à ça. Ma part dans le projet, c'est pas forcément de chanter. Donc, si je m'oblige, je vais aller dans le mur, au fait. Et puis, il y en a d'autres qui sont doués dans l'administration. Je sais pas, moi, il y a tellement, tellement de ministères différents que Dieu a donné dans la Bible, ou même des choses spécifiques qui sont pas forcément notées dans la Bible. Il y en a qui vont avoir à cœur d'aider une telle population, s'occuper de jeunes filles. J'ai une amie aux États-Unis qui s'occupait des jeunes filles enceintes. Comment faire pour les accompagner? C'est pas tout le monde qui est doué pour conseiller, entourer. Et il y a plein, plein, plein de choses spécifiques comme ça que Dieu fait. Autant il nous utilise pour aider, et en même temps, il fait un travail de transformation. Donc, ce que Dieu a préparé pour moi, au fait, c'est pour ma transformation. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il est en train de faire dans ma vie propre, qu'il n'est pas en train de faire dans la vie des autres. Et chacun sa part. J'aime bien ce verset dans Luc 10, 26, quand le docteur de la loi vient voir Jésus pour lui poser une question. On voit beaucoup de gens qui viennent voir Jésus pour lui poser des questions. Et sa réponse est très intéressante. Quand le docteur de la loi s'approcha pour poser une question à Jésus, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Donc voilà, ça c'est les instructions. C'est, tu me poses des questions, mais qu'est-ce que tu lis dans le livre ? Donc Dieu va nous renvoyer à ça. Qu'est-ce que nous lisons là-dedans ? Et on a toutes les instructions qui sont là. La parole a été donnée pour notre instruction. Et voilà, comme je l'ai dit, quand on ignore le guide, quand on ignore les instructions, ben on se perd en chemin. Alors j'ai regardé un peu les quelques-unes des instructions que Dieu nous donne dans notre vie nouvelle en tant que citoyen des cieux, en tant que cette implication dans ce projet de transformation que Dieu est en train de faire dans nos vies. Il y a une première chose, Dieu nous parle du royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Donc ça, c'est une des instructions que Dieu nous donne. Nous ne faisons plus partie de ce royaume-ci, même si nous sommes là. Et nous encourage, il nous conseille. Il nous a donné une nouvelle famille, les chrétiens, la famille chrétienne. C'est le royaume des cieux. Donc maintenant, je dois apprendre à connaître mes frères et sœurs et à me relier à eux, à être dans cette famille-là. C'est une des choses qu'il nous enseigne. Il nous enseigne comment gérer notre temps. La notion qu'on a du temps, de notre temps, est complètement différente de la notion que Dieu nous donne du temps. Par exemple, quand il impose le sabbat au peuple d'Israël, et puis il y tient, parce qu'à un moment donné, il dit, quand il donnait les instructions, si quelqu'un n'obéit pas au sabbat, c'était peine de mort. C'est très très fort. Mais il tient à cette manière, une autre manière de voir le temps, de prendre du temps, de s'asseoir. Ce qui est contraire à nous, en fait. Nous, on a du temps. Il y a cette expression, je ne sais pas qui l'a créé, le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, il faut bien l'utiliser pour... voilà quoi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Son temps est différent du nôtre. Et il nous appelle par exemple à la prière. Il faut du temps pour ça. Et je sais que c'est compliqué. Il nous appelle au service, ces deux choses-là. Le service et le don de soi. Et le service, c'est pour l'autre. Et ça, c'est difficile. Il faut prendre de son temps, y réfléchir, planifier pour aller servir quelqu'un d'autre. Donc le temps, notre temps, maintenant, c'est un temps différent. C'est un temps... on est obligé de s'appliquer à comment Dieu veut qu'on utilise notre temps. Peut-être que des fois, on va planifier quelque chose et Dieu va nous appeler à faire autre chose et on va tout laisser et on va le suivre. Il nous enseigne à gérer notre argent différemment. Notre argent, d'un seul coup, on apprend que notre argent, c'est plus notre argent. C'est Dieu qui nous prête et nous prend en tant que gérant d'argent qui nous met entre les mains et on commence à réfléchir autrement. Comment est-ce que je gère ce bien que Dieu m'a donné? Là, il y a plein d'exemples pareils dans la Bible. On parle des talents, de toutes ces choses. Comment est-ce que je vais juste mettre l'argent quelque part, pas m'en occuper? C'est pas bien non plus. Voilà, il y a ce côté opposé où l'argent, moi j'aime pas l'argent, je suis, je sais pas. Mais Dieu nous a donné l'argent pour un but précis. Pareil, c'est pour servir les autres. Il veut qu'on fasse don de nos biens. Il le dit plusieurs fois, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. C'est un verset de la Bible, c'est un proverbe. Donc, il a un regard particulier sur ce qu'on fait de notre argent avec ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'on soit libérés où on peut se réjouir de l'argent que Dieu nous a donné, avoir de belles choses. Il nous l'a donné pour qu'on en profite. Mais une chose qui est très importante, c'est vraiment d'utiliser mon argent qui rentre dans ma poche. C'est pas pour moi. Je suis C'est pas gérant, il y a un mot dans la Bible.
Intendant.
Intendant, administrateur de cet argent-là. Une fois que je vois ça comme ça, donner n'est pas un problème. Donner n'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui partent en mission. Tous ceux qui sont partis en mission, c'est des gens qui les ont soutenus. En tout cas, dans notre union d'église, les missionnaires que je connais, quand tu commences à raconter leurs histoires, tu dis « Waouh !» Comment tous ces missionnaires arrivent à aller sur le champ? Il y a bien quelqu'un qui sort d'argent de sa poche. Et c'est ça le point, en fait. Et moi, quand j'étais en mission, j'ai toujours été touchée de manière extraordinaire. Chaque fois, Dieu va toucher quelqu'un, t'as pas demandé et la chose vient à toi. L'argent vient à toi. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a demandé « Comment fais-tu ?» T'es allé en conférence, t'étais en mission. Je dis « Moi, c'est pas moi qui ai le chéquier, c'est Dieu. » C'est pas moi et moi, je sais pas. Parce que Dieu s'arrange, mais au fait, il utilise notre argent. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour servir, le faire fructifier et servir les autres. Notre santé. Au-delà du fait de, il faut manger des légumes, il faut faire du sport. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment un cœur joyeux. Un cœur, il y a ce verset dans la Bible, je sais plus comment il est dit, mais, ouais, un cœur joyeux, c'est comme un bon remède. Voilà. Ouais. Un cœur joyeux est comme un bon remède. Donc, Dieu nous encourage à nous réjouir tout le temps, à nous entretenir avec des chants, des louanges, tout ça, parce que il sait, c'est ce qu'il dit pour notre santé, ça en fait partie. C'est un cœur joyeux et le reste se fait. Pareil, j'ai parlé du sabbat, prendre du repos. Aujourd'hui, c'est le jour du repos. Jésus nous appelle à nous reposer sur lui, à jeter tous nos soucis sur lui et à nous reposer. Et ça, vraiment, quand on commence à regarder, à lire, à étudier tout ce que Dieu dit du sabbat, on voit quelle importance il donnait tellement. C'est ça qui a amené le peuple en captivité pendant 70 ans. Au fait, tout simplement, ils avaient l'année du jubilé qu'ils n'ont jamais respectée. Pas jamais, mais ils se sont détournés. Bon, jubilé, Dieu a donné des règles, ses instructions. Au bout de 50 ans, il y avait des règles à suivre. Même au bout de 7 ans, par exemple, ils devaient cultiver leur terre pendant 6 ans. La 7e année, il fallait juste la laisser en jachère. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette année de jachère, les pauvres du pays pouvaient se servir, au fait. C'est dit, les pauvres pouvaient venir se servir. Donc, c'est génial dans la société comment c'est organisé. C'est-à-dire que chaque année, puisque tous les 7 ans, chacun tous les 7 ans, donc ils avaient des terres où ils pouvaient aller cueillir ou aussi se nourrir. Mais Dieu vraiment met une insistance incroyable sur ce truc d'être dans le repos. Tout se passe dans la tranquillité, le repos. Et nous, on fait le contraire, en fait. On est agité tout le temps, on cherche des solutions, on fait des plans, on imagine plein de choses au lieu d'être juste dans le repos. Et ça, c'est une instruction qu'il nous donne. Il nous enseigne aussi à aimer et pardonner. Et un verset, c'est ne pas dormir sur notre colère. Enfin, il nous donne, il nous dit, voilà, allez nous réconcilier avant de venir prier. Des petites choses comme ça qu'il nous donne. Donc, il faut qu'on apprenne. Il nous dit même de prier pour nos ennemis. Donc, il nous transforme à devenir des gens qui aiment et pardonnent. Et bien sûr, le combat de la foi, marcher par la foi. S'il y a quelque chose qui lui plaît, c'est celui qui marche par la foi, qui lui fait entièrement confiance. Il nous appelle aussi à être des témoins de l'évangile. Donc, évangélisation, prier pour la moisson. Il dit prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. C'est notre part. Le soutien financier, on en a parlé. Et puis, le tout dernier point, c'est la souffrance. Il nous enseigne à avoir un regard nouveau sur la souffrance. Parce que nous, pour nous, ce que nous, on appelle souffrance, lui, il appelle délivrance. Donc, quand nous, on souffre, on est fixé sur notre souffrance. Et bien sûr, c'est pas plaisant d'être dans une situation de souffrance. Mais en tant qu'enfant de Dieu qui sommes dans un projet global, la souffrance a toute sa place. Ça, il y a un but à la souffrance. Il n'y a rien qui soit un hasard. Et chaque fois qu'on passe par une étape comme ça de souffrance, au fait, il fait tout un travail dans notre âme, un travail de guérison en profondeur que nous ne voyons pas. mais il est en train de faire son travail et il est obligé de passer par là, en fait. Pour nous, c'est un chemin, ça fait partie des étapes du plan pour qu'on soit délivré de nous-mêmes. Combien de choses Dieu m'a délivré de tellement de choses depuis que je suis chrétienne. Plein de choses. Des fois, j'imaginais pas que je pouvais faire telle chose et d'un seul coup, quelques années, j'ai dit, waouh, j'ai pensé que j'aurais jamais pu. Et voilà, je suis en train de le faire, en fait. Dieu a fait un travail. Et il m'amène d'un point A à un point B, c'est très très bien, ce qui fait tout à fait avec mesure et précision. Et j'ai besoin de la souffrance pour ma croissance spirituelle. Des fois, Dieu va amener des situations, il va amener des gens aussi dans notre vie, que naturellement, on ferait tout pour éviter. Et Dieu dit non, je veux que tu sois avec telle personne. Il va juste amener, ça peut être un voisin, hein, ça peut être, je sais pas, quelqu'un au travail, Dieu va amener. Et dans ce cas, on va se retrouver dans une situation où de conflit, mais j'en ai besoin pour commencer à apprendre à marcher autrement. Et ça va m'obliger par la foi à me lever. Pareil, quand Dieu m'appelle dans un nouveau ministère, je peux penser, ah, je pourrais pas. Mais par la foi, apprendre par la foi à rentrer dans ce que Dieu me demande, parce que dedans, il y a de la délivrance. Et c'est important pour moi. David a traversé pas mal d'épreuves dans la Bible, le roi David, et à la fin, il s'est écrié. Il dit, je deviens grand par sa bonté. C'est par la bonté de Dieu que Dieu fait toutes ces choses-là. C'est une preuve de bonté. Et à la fin, on voit comment Dieu se décrit dans la Bible plusieurs fois. Il dit, je suis un Dieu plein de bonté et de miséricorde, lent à la colère. Eh bien, ça, c'est son but. Il forme son caractère en nous. On va devenir des gens pleins de bonté, lents à la colère, pleins de miséricorde. Ce qui n'est pas naturel chez nous, mais Dieu réussit ce coup-là de faire ce travail dans notre vie, de nous transformer. Donc, Jean 15, il vient, il émonde, il coupe des branches, il vient, il émonde. Tout le chapitre de Jean 15, c'est Jésus qui nous enseigne en disant très bien que Dieu vient, il taille sa vigne pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit bien. Et c'est tout le travail que Dieu fait dans nos vies. Et nous délivre de nos péchés, de nos craintes, de nos manquements. Je suis sûre que si on faisait des témoignages d'un tour de table, tous les témoignages qu'on a de délivrance que Dieu a fait dans nos vies. Il nous délivre de choses qui nous font du mal, un mauvais jugement sur nous-mêmes, l'image, l'identité que j'ai de moi-même, la jalousie, l'envie, la colère, les excès, toutes sortes de choses qu'on voit dans Galates, en opposition à Galates 5, 22, où le fruit de l'esprit est d'un seul coup, il y a tous ces fruits qui commencent à sortir de nous. Donc Dieu vient, il nous façonne tout doucement, il fait des choses. Nous, on réalise des fois qu'il y a la présence de Dieu seulement quand il y a la souffrance et d'un seul coup, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a des moments où on oublie de prier et d'un seul coup, il y a une situation, on devient le plus fervent pour prier. Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle, fais quelque chose. Mais justement, c'est son but. Il amène les situations et d'un seul coup, nos priorités changent d'un coup. Nos yeux, on revient sur le Saint-Esprit, sur le guide et d'un seul coup, on est encore là, et on marche, et on continue. Donc voilà, Dieu est l'architecte, il s'est préparé un projet, il a fait un plan, nous sommes dans ce projet-là, il y a un maître d'œuvre, il y a le Saint-Esprit qui a le plan qui nous conduit, donc on lui fait juste confiance et on avance. Je vais juste lire un dernier verset, Exode 23, 21, 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te. Exode 23, 21, 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés et mon nom est sur lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc voilà, laissons-nous guider dans ce plan-là. Laissons-nous guider sans voir, sans savoir, mais on va là où Dieu veut qu'on soit.